Merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, midi à Paris, une heure de plus à Gaza.
Simon Bourtembourg.
Un plan de cessez-le-feu validé par le Hamas et Israël à Gaza. La trêve entrera en vigueur dimanche à 6h30 temps universel. Dès demain, 3 otages israéliens devraient être échangés contre 95 prisonniers palestiniens. En Syrie, la place de l'islam dans la future constitution suscite déjà des inquiétudes, notamment pour les minorités religieuses et ethniques, nous le verrons. Aux États-Unis, Donald Trump dans les starting blocks. Le républicain doit être investi président lundi, alors que Joe Biden enchaîne les décrets pour tenter de solidifier son héritage. L'administration Trump entend procéder à des arrestations massives de migrants illégaux, et ce, dès ce mardi. Et puis, en fin de journal, du football et le PSG qui affronte Lens à 16h temps universel. Les regards seront braqués sur le banc parisien où prendra place la nouvelle recrue du club. Compte à rebours lancé dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu validé par le Hamas et Israël doit entrer en vigueur dès demain dimanche à 8h30 heure locale. C'est ce qu'annonce le Qatar, l'un des médiateurs de cet accord. La trêve doit ainsi mettre un terme à 15 mois de guerre et permettre la libération des otages en échange de celle de centaines de détenus palestiniens en Israël. C'est un plan en 3 phases qui a été acté hier soir. On fait le point avec Nicolas Falaise, notre envoyé spécial à Tel Aviv.
Dès demain dimanche, toutes les opérations militaires sont suspendues, l'armée israélienne se retire partiellement de la bande de Gaza et l'aide humanitaire doit commencer à entrer massivement dans le territoire. Dimanche toujours, le Hamas palestinien est censé libérer 3 otages. On évoque 3 femmes soldates israéliennes et un premier groupe de détenus palestiniens doit retrouver la liberté au même moment. Si tout se passe comme prévu, on sera alors au premier jour de la première phase du cessez-le-feu. Une phase de 6 semaines durant laquelle 33 otages israéliens et 737 détenus palestiniens doivent être libérés par petits groupes à plusieurs jours d'intervalle. En tout, l'accord comprend 3 phases. Le contenu et le déroulé exact de la seconde phase seront discutés dans un peu plus de 2 semaines. Il s'agira là encore de programmer des libérations, des replis militaires israéliens, la liberté de mouvement des Gazaouis et à terme la reconstruction de la bande de Gaza. C'est un calendrier à risque, un processus qui peut dérailler à chaque instant. Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
La trêve à Gaza donc, et pour ce qui est du cessez-le-feu au Liban acté à la fin du mois de novembre dernier, le Hezbollah accuse ce matin Israël de centaines de violations. Des déclarations alors que le secrétaire général de l'ONU se trouve au Liban à l'approche du 26 janvier, date butoir prévue pour l'application complète de l'accord de cessez-le-feu. Le président libanais continue, lui, de réclamer le retrait de l'armée israélienne du sud du pays. En Syrie, des interrogations autour de la future constitution. Le texte doit être écrit d'ici 2 à 3 ans, a déclaré Ahmad al-Shara, le nouvel homme fort syrien. Mais dans le pays, l'hypothèse de l'inscription dans la constitution de la primauté de l'islam fait débat. Les imams proches du nouveau pouvoir syrien poussent pour que leur religion ait une place importante dans le pays, où pourtant 30% de la population environ est issue des minorités religieuses et ethniques. Un reportage de notre envoyé spécial à Idleb, Manon Chaplin.
La constitution Ahmed al-Shara, nouvel homme fort de Damas, en a récemment tracé les grandes lignes. Une conférence de dialogue national doit se tenir prochainement, à l'issue de laquelle un comité d'experts devra la rédiger. À Idlib, les imams proches d'Ayat Tahrir al-Sham, comme le cher Raled, espèrent que sera inscrite la primauté de l'islam.
Si un parti islamique dirige le pays, cela permettra de rendre justice à tout le monde. C'est un principe de notre religion. Même les alaouites pourront faire valoir leurs droits et vivre mieux que sous le régime d'Al-Assad. Al-Assad était contre la religion. Et nous avons vu ce que ça a donné. Des bombardements, du sang et des viols dans toute la Syrie.
Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmad al-Shara envoie des messages rassurants, répète son envie d'une Syrie unie, la perspective d'un islam sunnite dominant dans ce pays où 30% de la population est issue de minorités fait débat.
Il ne faut pas s'inquiéter. À Idlib, et depuis de nombreuses années, sous le régime d'Ayat Tahrir al-Sham, les druzes et les chrétiens sont proches de nous. Personne ne leur a adressé un seul mot de travers. Ce sont des preuves concrètes et pas seulement des paroles. Et nous, nous ne faisons pas confiance aux paroles, nous faisons confiance aux actes.
Ces dernières semaines, les représentants de Tayyad Tahrir al-Sham ont rencontré des représentants druzes, chrétiens ou encore alaouites. Le 31 décembre, Ahmed al-Shara a même passé un bout de son réveillon à Alep avec le représentant du Vatican, Mario Zenari, de bon augure selon ce cardinal. Manon Chaplin à Idlib, RFI.
Moscou revendique ce matin des frappes sur un site militaire à Kiev. La capitale ukrainienne, en effet, victime cette nuit d'une attaque russe. Le chef de l'administration militaire de Kiev annonce ce matin 4 morts et 3 blessés. L'armée russe se félicite par ailleurs de la capture de 2 villages, cette fois dans l'est de l'Ukraine. 23 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, décision du président Alexandre Loukachenko. Au pouvoir depuis 1994, le dirigeant autoritaire s'apprête à voir son mandat prolongé lors d'un scrutin que ses détracteurs en Occident qualifient de mise en scène. Alors que la Serbie compterait 1000 prisonniers politiques, plus de 200 personnes ont été libérées dans une série de grâces similaires au cours des 6 derniers mois, et ce, avant donc le scrutin du 26 janvier prochain. 170 millions d'utilisateurs de TikTok bientôt privés du réseau social aux États-Unis. L'entreprise chinoise regrette la décision rendue hier par la Cour suprême américaine. Le texte impose aux boutiques d'applications sur nos smartphones de bloquer les téléchargements et mises à jour de l'application à partir de dimanche. Le sort de TikTok aux États-Unis dépend désormais en bonne partie du futur président Donald Trump, qui sera investi ce lundi. Joe Biden, lui, vit donc ses dernières heures à la Maison-Blanche. Alors, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, le président signe un certain nombre de décrets pour tenter de solidifier son héritage. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Des médicaments sur la liste des produits dont les prix pourront être négociés par les assurances santé, comme le célèbre et très rentable Ozempic pour lutter contre l'obésité. Des grâces par milliers pour les crimes non violents liés à la drogue. Joe Biden soigne les symboles libéraux alors qu'il signe ses derniers décrets. Il envisage aussi toujours d'accorder de larges grâces préventives à des gens que l'équipe Trump considère comme des ennemis politiques et a dans l'idée de poursuivre. On pense aux membres de la commission spéciale du 6 janvier ou au docteur Anthony Fauci, aux responsabilités pendant la pandémie de Covid-19 et qui a promu le confinement et la vaccination. Cela vient s'ajouter aux décisions prises depuis plusieurs semaines de protéger un certain nombre de sites naturels et surtout d'interdire les nouveaux forages en mer, une mesure qui va directement à l'encontre du programme de Donald Trump qui consiste à favoriser dès le premier jour l'exploitation des énergies fossiles. Son équipe a déjà prévenu que cette décision serait rapidement annulée. En revanche, ce sera plus difficile pour les grasses car revenir dessus enclencherait à coup sûr des batailles judiciaires à l'issue incertaine. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et l'administration Trump entend par contre procéder à des arrestations massives de migrants illégaux et dès ce mardi. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin celui qui sera en charge des frontières sous l'autorité du républicain. Il s'agirait même d'une des premières actions prises par le président Trump qui va donc être investi lundi. Un roi napolitain, bientôt prince parisien, Gvisha Gvara Sekelia, portera le maillot du PSG pour le reste de la saison. L'international géorgien quitte donc Naples, qui s'est vu offrir 70 millions d'euros par le club de la capitale. Cédric de Oliveira, l'ailier gauche, s'est officiellement engagé à Paris jusqu'en 2029.
Déchant à sa gloire, un statut d'idole, Gvisha Kvaratskhelia avait tout pour s'épanouir à Naples. Mais après 2 ans et demi en Italie, il s'est laissé tenter par le PSG. Son ancien entraîneur, désormais Antonio Conte, n'a pas caché son désarroi.
Gvara a demandé à partir, je suis très déçu forcément. J'ai bien essayé de le convaincre, mais je ne veux pas non plus passer mon temps à forcer quelqu'un à rester contre son gré. C'est vrai que nous perdons un joueur très important.
En compagnie, l'ambidextre géorgien a rapidement séduit par ses qualités de vitesse et d'explosivité. Grand artisan du titre de champion de Naples en 2023, il intéressait depuis longtemps le PSG. Pour Eric Rabezandratana, consultant pour Radio Foot International, c'est une recrue de choix.
Quant à la possibilité d'avoir un joueur comme ça, moi je dis oui. Un joueur comme Kvaratskhelia va être un des talents qui va s'inscrire dans le fait de faire briller les autres autour. Et ce collectif est bon, mais il a besoin d'être agrémenté de joueurs comme ça, avec ce talent-là. Donc ça va déjà booster un peu tout le monde. Il y aura une vraie concurrence saine Et du coup, je pense que ça va être intéressant pour tout le monde, en fait.
Orphelin de Mbappé, parti l'été dernier, le PSG pourrait bien tenir sa prochaine tête de gondole. À bientôt 24 ans, Kvaratskhelia a tout pour conquérir la capitale.
À Cédric De Oliveira, alors que le PSG se déplacera avec sa nouvelle recrue tout à l'heure sur la pelouse de Lens. Match à 16h temps universel prévu dans le cadre de la 18e journée du championnat de France. RFI, midi, bientôt passé de 10 minutes. Ici à Paris, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.